With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Au bout d'un moment, un jeu vidéo, c'est la construction, c'est un peu comme un château de cartes, quoi.
Et donc ça, c'est le joueur qui va choisir sa manière de jouer par rapport à nous, ce qu'on lui offre dans notre niveau.
En gros, utiliser une échelle, déjà en soi, c'est pas très fun.
Tout ce que tu viens de décrire, justement, essayer de déterminer qu'un joueur, est-ce que là je peux sauter, est-ce que je peux atteindre cette bordure, etc. ou pas, c'est un des fondamentaux du level design, c'est-à-dire qu'est-ce que notre niveau est assez clair pour le joueur pour se dire ici je peux monter là-haut ou pas, est-ce qu'il me faut un pouvoir, est-ce que la porte est verrouillée, etc.
On ne se promène pas dans un jeu signé Arkane comme ailleurs. Les créations de ce studio né à Lyon au début des années 2000 sont immédiatement reconnaissables par la façon qu'elles ont d'encourager le joueur à explorer l'environnement pour se frayer de nouveaux chemins, à s'emparer de l'espace jusqu'à vraiment habiter un niveau. Mais d'ailleurs, c'est quoi un niveau chez Arkane ? Est-ce qu'on parle bien de la même chose que pour les autres jeux vidéo ? La question est d'autant plus brûlante que dans leur dernière production, le très bon Deathloop, que nous avons chroniqué dans la première émission de cette saison, chaque niveau existe dans quatre périodes temporelles très marquées et donc très différentes. Avec Marius, on a eu la chance de pouvoir discuter de tout ça avec Guillaume Ferrat et Thomas Boucher, tous les deux level designers à Arkane Lyon. Une discussion très enrichissante, d'autant qu'on a assez rarement l'occasion d'échanger avec celles et ceux qui ont en quelque sorte les mains dans le cambouis des super productions de ce genre. Tous les toits, se doivent-ils d'être intéressants ? Voici le thème de ce deuxième hors-série des vacances d'automne. C'est parti. Silence en joue, Erwan Cario, bonjour. Donc on a le plaisir de recevoir dans Silence on joue deux level designers d'Arkane qui ont travaillé sur le très bon Deathloop. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Ferrat, donc level designer chez Arkane Lyon. Bonjour Guillaume.
Salut Erwan.
Alors depuis combien de temps chez Arkane ?
Écoute, maintenant ça va bientôt faire 5 ans l'année prochaine. Donc je suis arrivé à Arkane au tout début de la production de Dishonored, la mort de l'Outsider. Donc qui était la suite de Dishonored 2. Et donc du coup après ce qui a conduit donc évidemment à la production de Deathloop.
Donc, voilà. D'accord. J'aime bien le évidemment. et Thomas Boucher, donc aussi level designer chez Arkane Lyon. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Donc level designer chez Arkane Lyon et depuis combien de temps ?
Ça va faire 8 ans bientôt là. Et moi je suis arrivé sur la pré-prod, tout début de la pré-prod de Dishonored 2. Et puis jusqu'à Deathloop du coup.
D'accord. Donc on va parler level design. Alors c'est un vrai plaisir d'arriver avec cette impression, en tout cas de notre point de vue de journaliste, d'entrer un peu les mains dans le cambouis, un peu sur l'envers du décor de la production de jeux vidéo, où c'est vrai qu'on parle généralement de narration, de game design ou de DA, mais rarement un peu sur les détails un peu techniques, du level design. Et je commence avec peut-être une question très générale. Qu'est-ce qu'on appelle un level designer chez Arkane ?
Alors, le level designer, en fait, nous, on va s'occuper. Donc, les level designers vont bosser intégralement sur les maps, donc les niveaux de jeu qu'on va développer. Et en fait, on va être responsable de toute la partie gameplay, que ce soit les missions, les side quests, la navigation, ce qu'on appelle la géométrie, c'est-à-dire la disposition des rues, des bâtiments, du terrain, etc. Et on va bosser avec plein d'autres corps du métier dans le milieu. Donc les level architects, la narration, le son, l'audio, etc. Pour donner vie, de la crédibilité à cet environnement, que les missions soient fun, que les joueurs comprennent ce qui se passe autour d'eux. En plus, en parallèle, donc on a d'autres corps de métier comme les game designers qui, eux, vont définir les pouvoirs, les aptitudes de notre personnage, etc. Des outils qu'on va avoir à disposition dans le jeu. Et nous, notre rôle de level designer, c'est de pouvoir jouer avec ces mécaniques pour les intégrer dans nos niveaux et que le joueur puisse
jouer avec pour, bah, par exemple, tuer ses assassins, enfin, ses cibles d'une manière intelligente ou d'une manière fun ou de telle et telle façon qu'ils puissent s'approprier un peu le niveau de la manière qu'ils souhaitent.
Tu as évoqué la liberté du joueur tout de suite. Est-ce qu'il y a une philosophie arcane, entre guillemets, des piliers de level design? On a l'impression que ce qu'on appelle le player agency, c'est la liberté de faire ce qu'on veut, en fait, est centrale chez Arcane. Et par quoi ça passe dans le level design chez vous?
Ce qui va surtout passer, c'est en fait c'est la liberté qu'on offre à notre joueur à travers notre niveau pour pouvoir aborder son objectif de la manière qu'il souhaite. C'est-à-dire que si par exemple il commence dans un niveau et qu'on lui dit va assassiner telle personne, et en explorant le niveau et de fait de level design et de la cohérence de l'environnement, il va pouvoir se dire là il y a trop d'ennemis, je vais peut-être essayer de trouver un endroit un peu annexe pour pouvoir essayer de contourner le truc, ou il va pouvoir observer sa cible, ce qu'elle fait, etc. On apprend plus sur elle, il va peut-être apprendre que à tel endroit il y a telle distraction qui pourra l'attirer, ou alors peut-être c'est un grand fanat d'armes et du coup il va peut-être se rendre à l'armurerie à un tel moment donné. Et justement, il va pouvoir naviguer, opter ses choix et orienter son gameplay pour dire je vais pouvoir aller à tel endroit, je vais aborder ma mission de telle ou telle manière, que ce soit en mode gros bourrin ou en mode complètement complètement furtif. Et donc ça, c'est le joueur qui va choisir sa manière de jouer par rapport à nous, ce qu'on lui offre dans notre niveau.
Très concrètement, en fait, quand vous avez un niveau à créer, vous partez de quoi? Vous avez quoi comme consigne? C'est suivre une mission et faire en sorte, enfin, vous avez au départ une mission et vous devez faire en sorte que le chemin jusqu'à cette mission soit cool, ou c'est quoi les étapes en fait? Pour un niveau de Deathloop par exemple, c'est quoi le point de départ et comment vous naviguez là-dedans?
Thomas, pour le coup.
C'est une bonne question. Ouais, pour le point de départ, en fait, ça peut, en général, ça peut être une mission, mais pas forcément. Ce qu'on aime bien, ce qu'on aime bien faire aussi, alors pas que sur Deathloop, mais sur d'autres prods aussi, c'est de partir d'un lieu, par exemple. Ça peut être, je dis une bêtise, mais un phare, une île. Ça va nous permettre déjà d'avoir l'emplacement. Ça va déjà nous permettre aussi de pouvoir visualiser un peu la chose et ce qu'on peut en faire avec. Et ça, c'est un très bon point de départ. Mais ce n'est pas forcément le premier qu'on va prendre. Ça peut être effectivement aussi, on a une idée de mission. Ça peut être aussi le fait que, on a un genre, on a un concept bien particulier pour ce jeu-là, en l'occurrence pour Deathloop. C'était le concept de la boucle temporelle. Donc, dès le début, on savait qu'avec ce concept-là, ça allait forcément influencer notre level design, que ce soit dans la construction des missions, que ce soit dans la construction des maps en elles-mêmes. Vous parliez de la liberté qu'on peut avoir dans nos maps. Dans notre level design, forcément, avoir une boucle temporelle, ça allait aussi influer là-dessus. Donc ça peut être plein de choses différentes qui peuvent nous inspirer, et pas forcément tout le temps les mêmes choses. Ça peut être aussi des concept art, par exemple, si on peut en avoir en début de production. Le simple fait de voir le concept art d'un personnage, d'un lieu aussi, ça va pouvoir aussi nous inspirer et nous permettre de créer, d'imaginer tout ce qui va nous intéresser, nous, en tant que level designer, en fait.
Quand on pense level design, un peu, il y a ce côté un peu historique du jeu vidéo où level design, c'était créer un niveau de jeu, peut-être un niveau de Super Mario pour caricaturer et pour aller au cœur du truc. Mais c'était limite, on imaginait, c'était placer la plateforme suivante pour qu'elle soit atteignable par double saut, mais pas par simple saut, par exemple. Enfin, on était sur quelque chose de très, de très technique, presque terre à terre. À quel moment, enfin, je pense que le métier a aujourd'hui évolué, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se rapporte quand même à ce cœur du level design? Placer les objets en fonction du gameplay, en fonction des parcours de joueurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de revenir aux origines comme ça du level design dans le travail d'aujourd'hui à Arcane?
Alors, moi, je ne pensais même pas à revenir aux origines, c'est carrément les fondamentaux du level design. C'est-à-dire que tout ce que tu viens de décrire, justement, et c'est déterminer qu'un joueur, est-ce que là je peux sauter, est-ce que je peux atteindre cette bordure, etc. ou pas, c'est un des fondamentaux du level design. C'est-à-dire qu'est-ce que notre niveau est assez clair pour le joueur pour se dire, ici je peux monter là-haut ou pas, est-ce qu'il me faut un pouvoir, est-ce que la porte est verrouillée, etc. Et nous, c'est un travail qu'on fait lorsqu'on travaille sur nos niveaux, c'est un travail récurrent pour travailler notamment, tu parlais des placements des objets, je parlais un exemple assez simple, c'est le placement par exemple des IA, des ennemis, leurs patrouilles, etc. Le joueur, il arrive dans une salle ou dans une rue, etc. Il voit des patrouilles et des ennemis qui se déplacent, qui disputent, qui interagissent entre eux, voilà. Et donc là, bah, notre rôle, ça va être de donner diverses options aux joueurs d'approche, en mode, les deux là, ils parlent, il y en a un qui est un peu tout seul, est-ce que je peux le tuer de manière un peu furtive et me débarrasser du corps assez rapidement? Ou au contraire, si je fais le bourrin, si je balance une grenade dans le tas, je m'occupe des deux là, ensuite je m'occupe du groupe d'après. Donc ça, en fait, c'est pareil, ça c'est des trucs qu'on établit, qu'on teste pour voir si ça marche bien, etc. Et à chaque fois, on itère, on repasse dessus, on ajoute, on enlève des NPC, on modifie des patrouilles, etc. Et donc ça, en vrai, c'est même pas un revenu aux sources, c'est carrément, enfin, le travail du level design en permanence pour donner à nos niveaux bah, un certain fun de gameplay et en même temps des outils aux joueurs, dans le sens où bah, il va jouer et approcher comme il le souhaite.
Mais aujourd'hui, c'est quand même... Enfin, il y a cette complexité, ne serait-ce que visuelle, en 3D. Enfin, c'est il faut que le joueur il sache où est-ce qu'il peut atterrir. Enfin, il faut qu'il y ait des indices visuels. Il faut qu'il y ait. C'est là où on a l'impression que ça se détache un peu du juste placer la plateforme dans un éditeur 2D pour être sûr que le joueur il arrive au bord de la plateforme façon Prince of Persia où il va s'agripper ou ce genre de choses. Là, on a l'impression qu'il y a une somme de contraintes. À prendre en compte ce qui est. Est-ce qu'il y a une liste, vous avez une liste de contraintes, de choses comme ça à prendre en compte au moment où vous rajoutez quelque chose ou vous modifiez un niveau?
Oui, effectivement, c'est vrai ce que tu disais avant. Fondamentalement, c'est un peu la même chose qu'avant, mais effectivement, c'est plus enfin, je pense que ouais, il aurait fallu être dans cette époque-là pour dire que c'est plus compliqué. Je pense que c'est pas les mêmes. Plutôt dire que c'est pas les mêmes. Ouais, effectivement, c'est pas les mêmes contraintes. Peut-être qu'on en a plus aujourd'hui parce qu'effectivement, on a plus. Il y a la technicité qui vient s'ajouter par-dessus, qui est de plus en plus complexe. Il y a les IA, il y a les contraintes. Effectivement, dire voilà, placer une plateforme à tel endroit, est-ce que ça a du sens à ce moment-là pour nous? Par exemple, dans un jeu comme Deathloop, on joue aussi beaucoup sur la verticalité. Donc, un des problèmes qui va se poser, par exemple, pour nous, c'est si on fait ça, si on pose telle plateforme trop haute et que le joueur peut y aller, après, quelles sont ses limites en fait? Est-ce qu'il va pouvoir sortir de la map? Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce que c'est intéressant de le faire? Voilà, ouais, par exemple, ça peut être ce genre de contraintes, par exemple. Mais après, oui, ça peut être aussi des contraintes plus techniques, du style, voilà. Jusqu'où on autorise le joueur à faire des choses? Est-ce que ça va pas mettre l'IA dans le noir? Est-ce que ça va pas poser des problèmes d'affichage, etc. Donc en fait, ouais, c'est des contraintes, je pense, qui sont différentes d'avant, mais potentiellement, je pense que les développeurs d'avant pouvaient aussi poser la même question. C'est juste que c'est différent aujourd'hui, ouais.
Quand tu dis jusqu'où on peut aller, est-ce que tu as un exemple de curseur où clairement ça allait trop loin? C'est difficile en fait de se représenter ça en tant que joueur. Est-ce que par exemple c'est donner accès à tous les toits? Est-ce que c'est...
Ouais, bonne question. En fait, nous, c'est vrai que dans notre philosophie, comme on disait tout à l'heure, bah, plus on laisse de liberté aux joueurs, mieux c'est. Donc on aurait tendance à dire, bah ouais, si on peut laisser le plus de toits accessibles, par exemple, possible aux joueurs, sur lesquels ils puissent évoluer, on le fait. Sauf qu'il y a des fois, on va se rendre compte que c'est pas forcément possible. Par exemple, parce que c'est peut-être pas intéressant. Le laisser aller sur ce toit-là à tel moment où parce qu'on a des idées de level design et de game design qui viennent un peu contre à cœur et ça. Bah, à ce moment-là, on va essayer de trouver des solutions plus ou moins élégantes pour éviter qu'il aille sur le toit. Mais dans la plupart des cas, on va dire 80%, 90% du temps, on va faire en sorte que si on lui a appris à ce qu'il on l'a habitué au fait de pouvoir aller sur les toits. Donc ça serait un peu comme un sacrilège de dire, bon bah voilà, t'as pu aller sur les toits pendant plus de la moitié du jeu, puis là tout d'un coup tu peux plus. Le joueur va le sentir un peu comme une trahison en fait. Et ça, on évite le plus possible. Mais il y a des fois, effectivement, on n'a vraiment pas le choix. Soit parce que ça va le faire sortir de la map, soit parce que voilà, ça ne nous intéresse pas et ça va mettre un peu en péril notre mission design ou ce genre de choses en fait. Donc ouais, il y a des fois où ça peut arriver. Mais voilà, on évite. C'est vrai qu'il y a un dicton qu'on aime bien dire chez Arkane, en fait, c'est say yes to the player, donc ça veut dire voilà, dites oui au joueur. Et voilà, ce qu'on lui montre à l'écran, les endroits qu'il voit, en théorie, il devrait pouvoir y aller. Tout le temps.
En théorie.
En théorie. Et en pratique, des fois, c'est pas toujours possible. Pour des contraintes techniques, justement, ou autre. Ouais.
Et c'est quoi? C'est par exemple, si on est sur Updam, il y a des toits où on peut pas aller. Ça tient au fait que ça simplifierait grandement la mission du joueur, ou est-ce que c'est une contrainte technique ou c'est juste sans intérêt en fait?
Ça peut être même les trois. ça peut être un peu ces trois choses là. Ouais.
La question subsidiaire, c'est est-ce qu'il faut qu'un toit par exemple soit toujours intéressant?
Oui, enfin oui et non, ça dépend. Ça peut être si c'est le toit où tu vas dessus. C'est juste un traversol qui te permet d'arriver à un endroit plus rapidement. Ça peut être intéressant pour le joueur de cette manière. Si c'est juste, effectivement, je vois la question. Si c'est juste un toit pour un toit et juste y aller parce que c'est pour dire qu'on peut y aller, ouais. Il y a peut-être aussi, on va se dire, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant de laisser celui-là? Si on ne laisse pas comme on le fait, est-ce que ça va se voir? Ça se pose là. Mais en général, voilà, même si on peut laisser le joueur y aller, même si c'est pas fondamentalement hyper intéressant et que ça lui permet d'accéder à un autre endroit rapidement, bah on va le laisser ce toit-là en fait.
Toujours pour essayer de comprendre vraiment dans les grands schémas, sur Deathloop par exemple, quand vous prenez une map, c'est quoi les étapes? Parce que là on parle du placement des patrouilles, on parle de la hauteur des toits, mais vous partez, je sais pas, d'une mission, d'un élément de DA, et c'est les premières étapes, c'est quoi? C'est façonner. Combien de niveaux, la grande archi, enfin faire la carte, c'est quoi?
Ça va être plus pareil, ça va être plusieurs choses. La DA va beaucoup aider effectivement. Si, comme je disais tout à l'heure, on a déjà ce qu'on appelle des concept art qui vont montrer les lieux qu'on va pouvoir avoir à disposition. Clairement, ça va nous aider à définir à quoi pourrait ressembler notre carte, en fait, notre map, notre niveau de jeu. Après, c'est en tout début de production, on commence, alors en tant que level designer, on commence à prototyper ce qu'on appelle des grey box en fait. Donc voilà, c'est juste, c'est très rough, hein, c'est poser des boîtes grises qui posent tout simplement des attentions. Et au début, on va essayer de travailler, après ça va dépendre du projet, mais en général, on commence à essayer de travailler un peu macro en fait. Donc on va essayer de définir la taille globale de la map, effectivement. Donc, et puis après, on va aller de façon plus en plus micro en fait. Mais ce qui est intéressant sur le travail du macro, c'est qu'on va le faire en collaboration avec on a ce qu'on appelle nous un corps de métier qui s'appelle les level architectes. Bon, il s'appelle plus comme ça maintenant, mais je trouve le mot architecte assez intéressant. C'est qu'en fait, ils vont nous aider pendant cette phase à concevoir ce niveau de jeu en fait. Ils vont être un peu garants de la cohérence et de la crédibilité du niveau en fait. C'est-à-dire que nous, en tant que level designer, on a une vision un peu plus déjà. De design tout simplement, c'est-à-dire de fun, on va faire un niveau de jeu vidéo. On veut notre but premier à nous, c'est que le niveau de jeu en question soit fun et agréable à jouer. Et la vision du level architect, ça va être plutôt de dire, ok, nous notre vision, c'est d'avoir un niveau qui soit quand même beau à regarder et qui soit en plus cohérent par rapport au ce qu'on pourrait voir dans le vrai monde en fait. C'est-à-dire que si on va créer, je sais pas, j'ai une connerie, mais si on va créer un entrepôt ou un phare plutôt, c'est peut-être plus sympa déjà. Ben, on va essayer de faire en sorte que ça ressemble vraiment à un phare quoi. Par contre, nous, notre but, ça va être de dire bah ok, on fait un phare, mais par contre, il faut qu'il soit quand même intéressant à naviguer, faut que ce soit fun à explorer. Voilà, c'est ces choses-là sur lesquelles on va s'attarder un peu plus en fait.
Intuitivement, enfin, quand on regarde l'industrie du jeu vidéo, c'est pas qu'il y a une hiérarchie dans les métiers, mais on pense toujours qu'il y a le réal un peu tout en haut avec sa vision globale, et puis les game designers. Et finalement, dans le level designer, c'est un peu les mains dans le cambouis, voilà, encore une fois, pour que le joueur se casse pas la gueule quand il fait son double saut. Et intuitivement, et c'est vrai qu'en tant que joueur, quand on joue à un jeu Arkane, on se dit les level designers doivent avoir une autre place parce qu'il y a, y a un côté un peu central de ce level design dans les Dishonored, là aujourd'hui dans Deathloop. On a vraiment l'impression que, je ne sais pas si c'est vous avez été dans d'autres studios ou dans d'autres, s'il y a une comme ça une différence dans la place que prend le level design à l'intérieur des productions Arkane. Est-ce que c'est différent d'ailleurs?
Alors moi, de mon point de vue, de mon expérience, j'ai quasiment bossé exclusivement Arcane, donc je ne pourrais pas répondre à cette question d'un point de vue extérieur. Par contre, pour te répondre de ton côté sur est-ce qu'il y a un côté supériorité ou pas, il n'y a pas de côté supériorité. Déjà, nous, entre level designers, en fait, on communique beaucoup entre eux. On partage tout ce qui est prototypage, les missions, etc. Donc, on se partage beaucoup de retours sur le jeu, etc. Et quand on en vient à travailler avec les autres corps de métier, bah en fait c'est à peu près la même chose en fait. Quand par exemple on joue un jeu comme l'expliquait Thomas, en fait, par exemple pour l'exemple du phare, si on va avoir un phare en tant que lieu dans notre niveau, on veut qu'il soit fun à naviguer, on veut que s'il y a des choses à faire à l'intérieur, que ce soit bah, fun pour le joueur de le faire, s'il y a des récompenses, etc. machin. Et si par exemple on se rend compte que par exemple bah, le phare, il y a un escalier à infini à faire et qu'en fait le joueur il met 1 minute à monter en haut, et ben on va essayer de voir, de négocier avec les level architectes ou la team environnement, la team artiste, bah savoir si on peut pas réduire le nombre de mâches ou réduire la hauteur du phare ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de truc de supériorité ou pas, c'est vraiment juste on échange entre eux, on fait des concessions, on essaie de voir qu'est-ce qui va être le mieux pour le joueur, le mieux pour la production, etc. Il y a forcément un côté un peu hiérarchique. Comme dans toutes les boîtes avec des producteurs, etc. ou ce qu'on appelle les leads, en fait. Nous, en level design, on a un lead qui, lui, son rôle est un peu plus bah, de nous aider, de nous arriver, de nous faire des retours sur nos niveaux, d'avoir une vue un peu plus macro que nous, qu'on a sur nos niveaux à nous. Mais de manière générale, c'est vraiment un échange vraiment quasi horizontal où chacun a son mot à dire, on essaie de tout le temps voir qu'est-ce qui est le mieux pour le joueur, parce que ça, le but, en fait, c'est que vraiment les négociations qu'on fait sont les mieux pour le joueur. Tout ça pour l'audio, le visuel, les effets spéciaux, les cinématiques, tout n'importe quoi.
J'étais curieux sur la structure des jeux Arkane se ressemble un petit peu toujours. On a l'impression que c'est fabriqué en pelure d'oignon, qu'il y a toujours un chemin évident, un chemin secondaire qu'on repère assez vite en empruntant le chemin évident, et puis un troisième et un quatrième qui sont eux bien plus cachés, qui s'identifient bah, en y revenant. Comment vous bossez cette complexité-là? À quel point il y a un savoir-faire qui s'établit au fil des ans? Et comment vous jouez aussi avec les attentes des joueurs qui connaissent ces structures-là pour les déjouer, entre guillemets?
Ouais, alors effectivement, c'est vrai qu'on a toujours, on essaie de, bah, ça revient à ce qu'on disait au début, on propose toujours des chemins différents. Alors, pour façonner ces chemins-là, en fait, généralement, on commence, après voilà, encore une fois, c'est pas toujours vrai, mais généralement, on commence par travailler sur ce qu'on appelle le golden path, en fait. Donc c'est voilà le chemin qui va être probablement très probablement privilégié par la plupart des joueurs. Donc c'est celui qui est le plus obvious en fait. C'est théoriquement, ça va être 70%, 80% des joueurs qui vont le prendre. Et après, effectivement, autour de ce chemin-là, il va en graviter d'autres qui sont bah, voilà, plus subsidiaires, mais qui vont, alors, pas forcément non plus, mais mener au même endroit, mais qui vont proposer des alternatives aux joueurs qui voudraient, par exemple, jouer, bah, ça va être peut-être un chemin un peu plus stealth, en fait, qui lui permet de vraiment infiltrer l'endroit sans se faire repérer. Ça va être peut-être un chemin qui va exploiter des pouvoirs en particulier, par exemple, donc la téléportation. Donc ça, voilà, pareil, ces chemins-là, effectivement, on essaie de les penser en fonction aussi de ce que le joueur pourrait rechercher durant son niveau, durant sa partie, en fait. Si on sait qu'il y a des joueurs qui adorent la téléportation, forcément, on va essayer de créer des chemins qui vont mettre en avant ce pouvoir-là, en fait. Parce que c'est...
Tu parlais de 80%. Vous avez des stats sur tous les jeux et vous voyez les chemins empruntés ou pas? Est-ce que vous pouvez voir que tel chemin créé était peut-être trop bien caché pour que ça fonctionne et que ça...
Effectivement, on a des outils qui permettent de voir, bah, quand on fait des tests en interne, notamment on a des outils qui permettent de voir quels chemins sont plus empruntés que les autres. Et effectivement, ça nous permet ensuite de pouvoir peut-être, si on a envie, équilibrer un peu tout ça en fait. Ouais.
Parce que la question subsidiaire qui s'impose, c'est jusqu'où vous pouvez aller dans la complexité et enfin dans l'équilibre entre la complexité et la et ce qui reste lisible en fait pour le joueur.
Bah pour Arcane, on va peut-être se dire qu'on va essayer de prendre des risques des fois en fait, ouais. On va se dire c'est vrai que ce chemin-là, il est pas hyper visible. Il y a vraiment peu de joueurs qui l'ont vu, mais on va quand même le garder parce que bah on trouve que ça ajoute une plus-value en fait. C'est intéressant parce que ça va être le chemin que peut-être effectivement il y a 3% des joueurs qui vont le voir. Mais par contre, voilà, quand ils vont le découvrir, ils vont être super heureux, ils vont se sentir un peu comme les seuls à l'avoir découvert. Ils vont se sentir puissants. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprécie, qu'on aime véhiculer dans nos jeux, en fait. Donc, et puis, en fait, on se rend compte aussi que ces chemins-là, s'ils n'ont pas été découverts sur les premiers runs, comme on crée en général des niveaux qui vont être... On demande aux joueurs de rejouer plusieurs fois ces niveaux pour bien les appréhender dans des sloops, c'est carrément ça l'idée, en fait. Mais même dans les productions d'avant. Peut-être qu'au bout de leur deuxième, la troisième run, ils vont finir par découvrir ces chemins-là. Et ils vont aussi se sentir récompensés, en fait. Ils vont dire, OK, je l'avais pas vu celui-là, mais ce chemin-là, il est génial. Et maintenant, je vais utiliser que celui-là parce qu'en fait, il correspond complètement à ce que j'attends pour évoluer dans ce niveau de jeu. Et en plus, il est, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui l'ai découvert, en fait. Donc, ouais, non, on va pas forcément se dire, voilà, il y a un chemin que personne ne prend jamais, ou quasiment jamais, on va le cutter. Parce qu'il sert à rien, ça peut être intéressant de le garder. Ouais. Si on estime que ça va apporter quelque chose au final, on va le garder. Après, effectivement, s'il y a vraiment... Parce que voilà, au bout d'un moment, avoir beaucoup de chemins pour beaucoup de chemins, c'est pas non plus intéressant, c'est comme les toits, en fait. Si c'est juste avoir un toit pour un toit, voilà, c'est pas forcément intéressant. On va peut-être se poser la question et se dire, OK, on a déjà 5 chemins, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en avoir un 6e ? On va peut-être le cutter, ouais, pour le coup.
Il y a aussi, je me permets de rebondir dessus aussi, il y a un autre outil auquel on joue beaucoup sur notre level design, c'est ce qu'on appelle le savoir, et c'est encore plus révélateur dans Deathloop parce que c'est un peu le but du jeu, d'acquérir du savoir sur les niveaux, nos cibles, etc. Mais on joue beaucoup aussi sur les discussions que le joueur peut entendre entre des IA pour donner des petits indices sur ce qui se passe dans le niveau ou les habitudes de tel ou tel personnage, etc. Je dis par exemple un exemple tout bête, le joueur arrive devant un chantier, deux NPC qui discutent et disent « Mais vas-y, pourquoi t'as pété la tuyauterie ? Les tuyaux ont explosé ?» Et là, le joueur peut se dire « Ah, peut-être que je peux passer dans le tuyau pour me donner un raccourci ou des choses comme ça. » Et le fait... Comme disait Thomas, peut-être que la première fois, il va pas s'en rendre compte, parce qu'il n'a pas eu la même approche, il n'a pas entendu la conversation, etc. Mais peut-être qu'en y revenant, il va se dire « Ah, mais en fait, j'ai un chemin plus court où je peux arriver carrément dans le sous-sol du bâtiment et avoir une meilleure approche ou pouvoir tuer ma cible plus facilement, etc. » Donc il y a également beaucoup ce côté savoir, d'écoute et donc du coup de cohérence du monde, parce que du coup, on immerge le joueur dans notre monde. Dans le sens où si tu prêtes attention à ce qui se passe dans le monde et dans ton environnement, tu découvriras des indices ou des chemins qui se découvrent à toi en parallèle donc, de tout ce qui est, bien sûr, comme l'a dit Thomas, pouvoir, outils, etc. qu'il a à sa disposition.
On a l'impression que Deathloop, c'est un peu l'acmé de ce truc-là, de cette logique-là, en prenant le pari un peu gonflé de n'offrir que 4 niveaux aux joueurs. Mais des niveaux qui sont à chaque fois distordus, enfin un peu différents, soit par le savoir du joueur, soit par l'état du niveau au moment où on y arrive. Déjà, est-ce que c'est, en tant que level designer, un truc qui est l'éclate totale de pouvoir se mettre à fond dans un niveau au point qui constitue vraiment le cœur du jeu ? Et comment ça change pour vous l'approche d'un espace, de devoir le rendre polyvalent, pour qu'il change au niveau du temps et que le joueur s'ennuie pas au bout de 5 heures passées sur le jeu, quoi.
Bah ça, en fait, c'est un peu une grosse phase de recherche qu'on a en début, c'est-à-dire quelles vont être les conséquences qu'on va retrouver au fur et à mesure donc de la journée de la même boucle temporelle et également les interactions qu'on peut avoir entre les niveaux. C'est-à-dire que si par exemple j'effectue une action dans un niveau, peut-être que cette action se répercutera dans un autre niveau plus tard dans la journée, etc. Donc c'est vraiment des choses auxquelles on a essayé de penser et prototyper assez tôt dans la production pour voir qu'est-ce qui est possible, les interactions qu'on peut avoir, est-ce que ça peut jouer ou non dans le brisage de la boucle, les types de récompenses qu'on peut offrir derrière. Et justement, de la manière dont est-ce que ça va changer la manière de naviguer dans le niveau, est-ce que ça va ouvrir ou au contraire fermer certains bâtiments ou certaines locations de nos niveaux. pour que ce soit bénéfique aux joueurs ou pour donner des avantages ou des informations additionnelles sur l'histoire du jeu, de l'île, etc. Découvrir de nouvelles armes, etc.
Oui, c'est vrai que sur le papier, ça peut être. On pourrait se dire avoir quatre niveaux de jeu et les parcourir. Enfin, voilà, avoir entre guillemets, que quatre niveaux de jeu, ça peut être un risque parce qu'on pourrait se dire le joueur il va être habitué à avoir tout le temps les mêmes décors. Mais voilà, on a fait un gros effort pour justement faire en sorte que voilà, toutes ces variations qui sont apportées dans ces niveaux-là au fur et à mesure de la journée soient vraiment intéressantes et variées en fait. Pour que le joueur n'ait vraiment justement plus cette impression de dire ok, je suis dans le même niveau, mais c'est le même niveau, mais pourtant ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai vu avant en fait. Tout simplement parce qu'effectivement il y a une variation au niveau des ennemis, des patrols, tout simplement de la luminosité, les endroits qui sont effectivement les lieux qui étaient fermés avant mais qui sont ouverts maintenant, puis effectivement toutes les conséquences que ça peut apporter. Et il y a un truc aussi que, en général, les joueurs aiment bien, c'est revisiter des lieux en fait qui commencent à connaître. Mais voilà, revenir sur des lieux qui commencent à maîtriser, mais qui sont quand même différents de ce qu'ils ont connu avant, c'est quelque chose d'assez jouissif en fait en tant que joueur, je pense. Moi, personnellement, par exemple, quand je pense à un Hitman, par exemple, c'est tout l'intérêt d'un jeu comme ça, c'est voilà de revenir sur des lieux qu'on commence à connaître quasiment par cœur en fait, mais il va y avoir toujours une petite variation qu'on n'avait pas vue qui va nous faire réapprendre ou peut-être voir ch totalement changer la vision qu'on avait du niveau en question en fait. Et voilà, je pense qu'en tant que même en tant qu'humain, on aime à appréhender les choses comme ça, d'apprendre en fait petit à petit, de maîtriser les choses, d'y revenir, de réapprendre encore des choses. C'est un espèce de pattern en fait qui marche assez bien dans ce genre de processus en fait, qu'on a essayé aussi d'appliquer dans des soupes en fait.
J'ai une question un peu bête. Est-ce que en interne, quand vous travaillez, est-ce que vous considérez que Deathloop a 4 niveaux ou 16?
Je dirais que c'est vraiment. Alors, ouais, il y a 4 niveaux, mais après pour moi en fait, chaque variation est un niveau en soi en fait, parce que on estime qu'il y a tellement de différences. Il faut le considérer. Et de toute façon, il fallait le considérer comme des niveaux à part entière et vraiment différents les uns des autres, parce que si on n'avait pas réussi à faire ça, je pense qu'on n'aurait pas réussi à avoir des niveaux de jeu assez intéressants. Effectivement, on serait tombé dans le piège de. Ils se ressemblent trop, et en fait, le joueur a l'impression de revenir au même endroit et de faire la même chose en fait.
En fait, la géométrie de base reste globalement la même d'une période à l'autre de la journée, mais en fait, il y a tellement de choses qui changent au niveau événements, les IA, les patrols, des lieux qui s'ouvrent, qui se ferment, etc., que effectivement, même si on connaît le niveau dans sa généralité, on va découvrir de nouveaux emplacements, de nouveaux lieux,
Et des nouvelles missions aussi, ouais.
Ouais, des nouvelles missions.
Comment vous avez travaillé très concrètement? Déjà, combien il y a de level designers chez Arkane en général? Et par exemple, pour un jeu comme Deathloop, est-ce que vous étiez fléché sur un niveau dont vous suiviez les évolutions, ou est-ce que tout le monde bosse un peu sur tout et puis c'est les leads qui s'occupent de.
En général, après c'est peut-être différent dans d'autres boîtes, mais nous on aime bien à ce qu'il y ait un level designer, on va dire pour une mission, en fait, pour une map. Donc là, ouais, effectivement, on avait 16, enfin, grosso modo, on avait 16 niveaux de jeu, donc on essaie d'avoir autant de level. Alors, on n'est pas autant de level designer pour le coup, donc des fois il se peut que voilà, il y ait un level designer qui s'occupe de plusieurs choses à la fois. Mais par contre, ce qu'on aime bien quand même, c'est cette règle-là qui est, enfin cette règle, cette idée qui est un level designer va être un peu le owner de sa map, et ça va être son petit bébé en fait, et il va devoir s'en occuper pendant un certain temps en fait. Ça permet vraiment de s'approprier un peu le sujet, plutôt que d'avoir effectivement trois ou quatre ou plusieurs personnes qui vont passer dessus. Ça peut être intéressant aussi parce que chacun porte sa vision, mais. Ouais, voilà, on aime bien plutôt se dire, on a notre map, on l'accompagne jusqu'au bout quasiment, et ça permet d'avoir vraiment des choses intéressantes qui en ressortent, je pense. Après, effectivement, il y a d'autres boîtes qui peuvent fonctionner différemment, où ça va être voilà, plusieurs level designers qui vont s'occuper de plusieurs maps, en même temps qu'ils vont changer. Peut-être que pendant un an, il va travailler sur telle map, puis après, il va passer sur autre chose. Et c'est quelqu'un qui va le remplacer. Ça peut exister aussi, ouais. Effectivement. Damn.
Good morning, Black Reef. Another day, another death. Aren't time loops fun? For everyone else on this island, this place is paradise. A never-ending party. Where hunting me is the main attraction. And no matter how I try to escape, they always cut me down. But I'm one stubborn motherfucker.
Je voulais revenir sur la question de la lisibilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous bossez avec d'autres services? Typiquement, on a l'impression que, bah, que l'éclairage joue vachement dans la façon d'attirer le regard des autres, enfin des joueurs sur des détails. Typiquement, il y a une recette de l'industrie qui commence à être un peu trop visible partout. C'est les petits rebords dans les open world, les petits rebords de couleurs sur lesquels on peut s'accrocher. Vous, ça, vous l'utilisez pas, mais vous bossez comment? À quel moment vous vous dites en level design, là notre truc il est super mais il n'est pas évident, il faut qu'on bosse avec la direction artistique pour que l'éclairage puisse pointer ce truc-là?
Ouais, donc ça revient encore une fois à ce qu'on a, enfin la cohérence du niveau, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que le joueur puisse se poser le moins de questions possible. C'est-à-dire que s'il voit par exemple un mur, il doit être capable de se dire direct, est-ce que je peux oui ou non passer au-dessus ou alors grimper par-dessus, etc. Et donc là, il y a un travail un peu avec tout le monde, donc tu l'as pointé, l'éclairage, c'est-à-dire que si nous, lorsqu'on va bosser sur nos niveaux, on a des intentions de dire, là, il y a un petit trou d'aération où on aimerait le mettre en valeur pour le joueur, on va peut-être au début essayer de le mettre en valeur un peu en mode grossier, c'est-à-dire qu'on va mettre une lumière temporaire avec un gros projecteur, en mode, faut voir ça, c'est important, c'est un peu important, et après, bon, on va travailler avec... les light artists qui, eux, vont essayer de rendre un peu ça cohérent, toujours pareil avec l'environnement, pour dire... Le reste de la salle est plus ou moins éclairé. Est-ce que, par exemple, on va mettre vraiment un projecteur ou par exemple une voiture devant avec des phares illuminés? Enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais donc il y a donc déjà rien que de ce que je viens de dire. T'as donc des personnes qui vont être responsables de l'éclairage, des personnes qui vont être responsables de l'environnement, donc nos level architectes, pour essayer de faire en sorte que le joueur, quand il arrive dans la salle, il n'y ait pas des éléments un peu partout qui diluent l'information, perdent un peu la vision du joueur, mais essayer de se concentrer au maximum sur les éléments de gameplay. Si on veut que notre trappe se voie bien, par contre, si on veut que ce soit un peu plus caché, peut-être qu'on mettra des boîtes un peu devant, ou alors une grille où il faudra tomber dedans, où il faudra casser, etc. Donc ça, pareil, ça c'est des intentions qu'on aura, nous, en tant que level designer sur nos niveaux. Et on essaiera de communiquer à tout le monde, ça c'est nos intentions, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit le mieux possible pour le joueur, que ce soit caché ou non, visuel ou non, un peu avec tout le monde, quoi.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Il y a un point qui est assez fascinant là-dedans, c'est que avec les jeux de plus en plus réalistes, et c'est vrai que les jeux arcanes, vous êtes dans des villes, vous êtes dans des milieux urbains ou naturels, ou quand on est dans une ville, on se dit pas, sauf quand on a trop joué aux jeux vidéo, mais on se dit pas, tiens, cette maison, elle est faite pour faire un double saut. Enfin voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a ça dans votre travail, c'est de tout faire pour que ce soit jouable, mais sans que le joueur ait l'impression que ce soit fait pour ça, en fait. Et il y a un côté, il faut que ce soit invisible, votre travail.
En fait, c'est exactement ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est que si, par exemple, si je reprends ton exemple de la ville, si on veut placer une plateforme en hauteur pour donner un avantage au joueur ou quel que soit, et bien, encore une fois, il faut que ce soit justifié, il faut que ce soit cohérent dans l'environnement. Est-ce que ça peut, par exemple, être une grue ou alors un camion, etc., etc. Donc, on essaye, quand nous, on va placer notre géométrie, d'anticiper ce travail de cohérence pour dire si je vais placer tel ou tel bloc ou plateforme, de se dire si elle est contre une façade, ça peut faire un balcon, donc il y a peut-être un moyen de justifier la chose. On va essayer de faire le moins possible de plateformes injustifiées, dans le sens où je vais poser une plateforme et débrouillez-vous, je veux une plateforme là. Non, ça va pas du tout être ça l'objectif. On va essayer toujours d'essayer de poser notre géométrie en aidant au maximum donc les autres corps de métier pour leur dire voilà, j'ai besoin de ça parce que bah c'est hyper important pour qu'on ait une vision globale de ma scène. Comment on peut essayer d'arranger ça? Est-ce que ça va être un lampadaire? C'est une petite ou une grosse plateforme, etc. Donc ouais, ça c'est un gros travail en amont pour essayer de tout justifier au maximum, que ça joue en plus avec la narration, par exemple. Est-ce qu'il y a un camion avec des caisses autour parce qu'ils font un déménagement? Est-ce que au contraire, il y a un truc, il y a un éboulement et donc du coup il y a plein de cailloux dans tous les sens qui peuvent servir de couverture dans des combats, etc.
Est-ce qu'il y a un moment où, enfin, ça a dû arriver dans votre travail où vous regardez un niveau et vous vous dites non, là, ça va pas, le level design se voit trop.
Oui, c'est une bonne question. Oui, ça peut arriver, effectivement. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant le travail qu'on a avec d'autres corps de métier, comme disait Guillaume, et notamment les level architectes. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment les garants aussi de ce genre de problème, justement. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a notre vision de level designer. Et il se peut que des fois on arrive à ces problèmes-là où ouais ok on a fait un truc qui a l'air fun et sympa à jouer, mais par contre c'est vraiment grillé, que c'est pas très réaliste, c'est très jeu vidéo en fait. Du coup bah le contre-pouvoir ça va être le level architect qui va justement nous dire ça en fait. Ils vont s'en rendre compte plus rapidement que nous et bah c'est super intéressant d'avoir ces garde-fous-là en fait, parce que ça évite d'en arriver à l'heure. Après voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut pas oublier qu'on mine de rien, on continue de faire un jeu vidéo. Donc, si ça arrive et que c'est pas trop non plus la cata, on va se le permettre. Mais d'un autre côté, voilà, on fait aussi attention à ça. Est-ce que ça soit pas non plus effectivement, on a des bandes jaunes un peu partout pour dire voilà, c'est pas là que tu dois aller. On a effectivement la caisse qui est au milieu nulle part pour dire c'est là que t'as ton cover. Ouais, on va essayer de rendre ça tout ça cohérent en fait. Donc, ouais, narration, level architect, c'est des gens qui vont beaucoup nous aider là-dessus. À essayer d'enrober tout ça pour que la pilule passe mieux. Ouais.
Par curiosité, level architect, c'est quoi la formation? Est-ce que c'est d'anciens level designers qui ont changé d'attribution? Est-ce que c'est des gens qui ne sont pas du tout du jeu vidéo?
Ça peut être, effectivement, on a des exemples Arcane, on a des gens qui étaient level designers et qui sont passés level architect, ou inversement même des fois en fait. Alors level architect, level designer, je sais plus, je suis moins sûr, mais l'inverse, oui. Et après, effectivement, bah, la formation, à la base, ça va être aussi, c'est ce qu'on appelle plus couramment dans les autres, alors normalement, on les appelle level artists maintenant, mais voilà, globalement, c'est des level artists, en fait. C'est des gens qui vont avoir une sensibilité à l'architecture, à tout ce qui est visuel, et donc, c'est des gens qui vont utiliser les moteurs aussi 3D pour créer les environnements. Arcane, c'est un peu plus particulier, parce qu'ils vont être un peu moins focus là-dessus, et au contraire, plus focus sur l'éditeur et créer les niveaux de jeu avec nous dans l'éditeur. Donc c'est vraiment un travail de collaboration qui est assez intéressant et assez particulier à Arcane pour le coup, ouais. Et qui encore une fois, bah, je pense qu'est la plus-value aussi qu'il faut le dire, hein, qui est aussi la plus-value de notre level design. Ça englobe aussi ce travail d'architecture qu'on a en collaboration avec eux, ouais, qui est super important pour nous, qui n'est pas toujours évident à mettre en place parce que c'est un système qui est différent et qui a ses limites aussi, mais quand il marche, et voilà, ça, je pense que ça marche bien. Ouais.
Question très très bête, mais on parlait tout à l'heure d'architecture d'un niveau et est-ce que c'est la même chose en gros, comment vous faites cohabiter les approches gros build où on peut arriver avec un fusil et éliminer tout le monde en utilisant 2-3 covers par moment, et un truc plus furtif? Est-ce que c'est les mêmes couvertures? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous rendez compte, bah là, c'est clairement trop, trop orienté furtif ou trop facile en bourrin? C'est quoi? C'est que des playtests qui permettent de dire ça? Est-ce que...
Alors ouais, principalement, il y a surtout des intentions de départ sur donc les zones qu'on va offrir dans nos niveaux, à savoir est-ce que ces zones sont plus découvertes, ou on va essayer de privilégier un peu le combat à distance, tout en gardant un peu ce côté furtif dans la tête, où on peut offrir des possibilités aux joueurs de contourner, etc. Et à l'inverse, sur les intérieurs ou autres, offrir plus de possibilités furtives, mais en laissant toujours quand même une value. Si le joueur veut jouer bourrin et juste complètement jouer avec ses armes, il a complètement la possibilité.
Dans une vidéo sur YouTube, d'un level designer de passé, je crois, d'Arcane, il y avait un tout petit truc, mais je ne sais pas si c'est à Lyon ou à Austin, une petite affichette qui était dans les locaux il est marqué fuck ladders, donc mort aux échelles. Ou... C'est... Qu'est-ce que ça recouvre derrière? C'est quoi l'idée derrière non aux échelles?
Là, je pense que les plus anciens seraient encore plus à même de répondre que moi, mais l'idée, si j'ai bien compris, bon, ça fait un petit moment que je suis là aussi maintenant. En gros, bah, utiliser une échelle, déjà en soi, c'est pas très fun. En plus, ça implique des systèmes qui, voilà, bon, tu prends une échelle, tu grimpes. Et en fait, nous aussi, en termes de gameplay, c'est pas de gameplay value, c'est pas très funky. Mais le truc aussi, c'est que nous, dans nos jeux arcane, en fait, comme on disait, bah, on a des pouvoirs qui permettent de se téléporter. On aime bien ce que les joueurs puissent aller sur les toits. On a beaucoup de verticalité. Donc avoir des échelles qui font, on va dire, je caricature, mais des échelles qui font 30 mètres de long pour monter sur un toit, alors qu'on a la téléportation à côté. C'est pas très intéressant, quoi. Donc c'est aussi pour ça que y a sûrement d'autres un autre historique là aussi pour ça, mais voilà, ouais, on n'a pas tellement intérêt à utiliser des échelles et ça nous intéresse pas tellement, en fait.
C'est un peu le raccourci facile et évident, le design. On veut ouvrir la possibilité de monter, bah on pose une échelle, c'est tout petit, tout droit, alors qu'on va plutôt essayer de privilégier justement bah, l'environnement, dans le sens une pile de boîtes, des tuyaux au plafond qui sont suspendus pour justement offrir un passage aérien ou alternatif au joueur, ouais. Et plus justement jouer sur l'observation du joueur, l'analyse, est-ce qu'il a vu ce passage ou pas, parce qu'on veut que par exemple des passages alternatifs ou des passages aériens soient plus ou moins visibles au joueur pour les exploiter, et on veut jouer sur bah, le côté observation du joueur, à se dire est-ce qu'il est suffisamment posé pour justement analyser une situation et se dire ah mais là il y a des trucs, je peux peut-être monter, etc., plutôt qu'une vieille échelle. Bah on connaît tous le jeu vidéo, on sait qu'une échelle, bah je peux monter et hop je monte dessus puis je me retrouve directement en haut.
Est-ce qu'il y a d'autres interdits de ce genre chez vous, des trucs qui sont évidents et tellement évidents qu'il faut les éviter?
Bah on a quelques règles, donc bah, on l'a expliqué tout à l'heure justement sur poser de la géométrie un peu n'importe comment dans tous les sens, c'était vraiment pas notre but. On a également en level design des codes, notamment sur les IA, enfin les ennemis, les types de combats qu'on va proposer aux joueurs, et c'est toujours d'offrir la possibilité aux joueurs qui jouent furtif de pouvoir essayer de se débarrasser facilement des ennemis de manière furtive, c'est-à-dire essayer de les faire naviguer d'une manière que bah, si lui il quitte le groupe, et bah, je peux essayer de le tuer derrière une caisse, ou alors il regarde plus un mec et du coup je peux m'occuper de lui en premier de loin, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de tout le temps mettre en avant pour essayer d'offrir aux joueurs bah, un côté furtif dans le jeu, parce que c'est quand même un peu l'essence d'Arcane aussi. Donc cette possibilité via le gameplay et surtout via les IA. Après, d'autres exemples plus comme ça.
Tout ce qui est possible, tout ce qui va être interaction aussi, les objets. On a un concept qui s'appelle affordance aussi, qui fait que, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois, si on a un levier que le joueur peut utiliser, on va faire en sorte qu'il soit toujours utilisable. C'est-à-dire que ce levier que vous avez utilisé dans le tuto, par exemple, il faut qu'il soit le même tout au long du jeu et qu'il soit reconnaissable pour le joueur de la sorte, en fait. Qu'ils n'hésitent pas qu'on n'ait pas non plus 40 000 leviers différents, et qu'on n'ait pas un levier où à tel moment, il fait juste partie du décor et tu ne peux pas l'utiliser. Si c'est le cas, par contre, il faut qu'on le justifie, mais on a d'autres moyens pour ça, en fait. Donc voilà, ouais, y a certains trucs qu'on ne peut pas se permettre. Parce que, encore une fois, ça serait un peu trahir le joueur. Lui expliquer qu'il pouvait faire telle chose, mais à tel moment du jeu, il ne peut plus. Juste parce que ça nous arrange, c'est des choses qu'on n'accepte pas en général. Ouais.
On a l'impression que le level design se fait presque en quatre dimensions. Qu'il y a, la verticalité habituelle, qu'on peut se déplacer comme on veut dans les niveaux, mais le temps joue aussi vachement sur l'expérience. Comment vous... Qu'est-ce que ça change, par exemple, en termes, vous parliez un petit peu du gating tout à l'heure, c'est le fait de fermer des zones et de les ouvrir. Est-ce que ces trucs-là, ça changeait votre approche, le fait qu'il y ait cette flexibilité temporelle et la possibilité de revenir, en fait?
Alors, oui et non, dans le sens où, oui, ça offre principalement des lieux qui s'ouvrent et qui se ferment, c'est soit pour des missions secondaires ou offrir des lieux annexes aux joueurs pour trouver des chemins alternatifs, etc. Mais l'essence même du niveau reste globalement le même. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a énormément de choses qui changent d'une période à l'autre, mais la géométrie principale du niveau reste la même. Par contre, effectivement, ça a eu énormément d'impact, surtout en début de production. dans le sens où il fallait anticiper tous les changements possibles qu'on souhaitait offrir aux joueurs, quel allait être l'impact dans la même map ou d'une map à l'autre en fonction de la journée. Est-ce que le joueur comprendrait, serait frustré ou serait content justement de découvrir que telle ou telle zone serait ouverte ou fermée, quel serait le gain, etc. Et il y a aussi une dimension importante pour Deathloop aussi, c'est le côté multijoueur qui a joué énormément dessus. Pour les zones où il y aurait justement des 1 contre 1 PVP entre joueurs, pour essayer de négocier que le joueur ne serait pas trop frustré de trouver telle ou telle zone fermée ou donnerait trop gros avantages d'un côté ou de l'autre, etc. Donc ça a été un travail assez important en début de production justement pour essayer d'anticiper tout ça. Et après, toujours pareil en fait, dès qu'on a eu les idées principales, on a itéré dessus, on s'est dit que peut-être ça c'était trop violent ou pas assez, ou ça c'était fun, ça a bien marché. Donc du coup, on a continué dans ces idées-là et essayé de pousser le truc au maximum, quoi.
Quand est-ce qu'en tant que level designer, vous avez la certitude qu'un niveau est fini, qu'un niveau est ça y est, c'est bon, on touche plus à rien, tout va bien, toutes les mécaniques, s'il y a une pierre qui tombe à un endroit, ça crée une chaîne d'événements jusqu'à l'autre et tout ça, il faut plus rien toucher parce que, alors si on change un truc, tout se pète la gueule et ça va plus. Est-ce qu'il y a un moment comme ça, il y a un moment de c'est bon, on a c'est bouclé,
ou est-ce que ça tient juste au calendrier et à un moment on dit non mais là stop parce que sinon on pète tout.
C'est une bonne question. Il y a beaucoup de ça aussi. Ouais, effectivement, il y a un moment donné où on a des deadlines voilà, faut les respecter. Mais c'est vrai que nous, si on pouvait hein, jusqu'au bout, on essaierait de changer des trucs en fait, parce que il y a un peu ce côté de on n'est jamais vraiment satisfait. Enfin, je sais pas comment dire, mais
c'est pianiste.
Ouais, si on peut dire ça, oui. Mais on essaye effectivement de il y a toujours des trucs qu'on voit peut-être à la dernière minute ou au dernier moment et on se dit si j'avais pu faire autrement je l'aurais fait. Puis quand on teste les jeux aussi, donc ça se fait souvent, on essaie de le faire tout au long de la production, soit en interne soit en externe quand on peut, et on se rend compte de choses et on les change. Et si on peut le faire et qu'on sent, enfin si c'est quelque chose qu'on doit changer qui est super important, qu'on estime être super important pour la qualité du jeu, on va le faire, et des fois même assez tard, jusqu'à assez tardivement dans la production du jeu d'ailleurs. Après voilà, c'est au producteur de décider si c'est risqué ou pas. Parce qu'effectivement il y a cette idée de c'est au bout d'un moment un jeu vidéo, c'est la construction, c'est un peu comme un château de cartes quoi.
Ouais.
Au niveau des bugs, si on essaie, des fois ça arrive qu'on corrige un bug, et c'est aussi prendre le risque d'en créer un autre en fait. Et c'est aussi pareil pour tout ce qui va être le level design, le game design et voilà, c'est des pièces qui s'imbriquent les unes les autres, et voilà, plus on tarde à essayer de les retirer, plus ça va devenir risqué. Mais ça ne veut pas dire pour autant que des fois on ne se permet pas de le faire. Mais effectivement, il y a aussi l'histoire de la deadline, où au bout d'un moment, même si on aurait voulu, on ne le fait plus parce que c'est ça.
Changer un truc au dernier moment, c'est quoi par exemple? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas supprimer complètement un bâtiment, ou est-ce que vous pouvez le refaire de A à Z en l'espace de 2 mois, ou est-ce que, enfin, c'est quoi la marge de manœuvre?
Entre guillemets, plus on va se rapprocher de la fin de la production, plus le changement de détail va être de plus en plus petit. C'est-à-dire que, par exemple, en fin de production, si on se rend compte avec des playtests que les joueurs ont du mal à voir tel ou tel élément, ou que, par exemple, une interaction ne fonctionne pas très bien, ou que, même hormis toute la navigation, on va vraiment se focaliser sur des petits détails qui vont être surtout comment le joueur perçoit son environnement ou tel élément de gameplay en fait. Si on veut commencer à toucher à de la géométrie ou des éléments comme ça, c'est fait assez tôt dans la production pour éviter justement ce risque, parce que toucher à la géométrie, ça change énormément de choses, ça change l'environnement, donc pour le level architect, à l'éclairage. Ça change de tout ce qui est volume, perception, gameplay, combat aussi, parce que les IA peuvent naviguer différemment vers l'intérieur. Donc il y a, en fait, c'est trop risqué en fait de le faire tard dans la production, dans le sens où on n'est même pas sûr du résultat. C'est-à-dire que si on fait des gros changements comme ça, il faudrait tester assez abondamment pour pouvoir dire ok, là j'ai vraiment testé tous les cas possibles, est-ce que ça marche vraiment, et si ça marche pas, c'est le risque quoi. Donc on essaye au maximum d'éviter ce genre de trucs.
Moi, j'ai envie de vous poser une question sur comment vous réagissez, surtout que vous avez déjà produit d'autres jeux avant chez Arkane. Comment vous réagissez, j'oserais presque dire, à ce que font vos ennemis naturels, qui sont les speedrunners. c'est-à-dire les joueurs qui vont aller aux extrêmes de ce que vous proposez, et donc qui vont peut-être trouver des choses auxquelles vous n'avez pas pensé, ou des parcours, ou des mécaniques de jeu, ou détourner les mécaniques de jeu. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces joueurs de l'extrême tirer complètement vos mécaniques là où c'était pas prévu?
Eh ben justement, en fait, le truc, c'est que vu qu'on propose un jeu où il y a plusieurs possibilités de l'accomplir et de progresser à l'intérieur, c'est une façon, donc comme tu l'as dit, une façon extrême de le faire, mais c'est rigolo de voir jusqu'où les joueurs peuvent pousser les déplacements du joueur, les pouvoirs, les gadgets, etc., pour essayer de terminer le jeu le plus rapidement possible. Moi, personnellement, je suis un grand fan de speedrun, donc effectivement, voir ces gens complètement naviguer le plus rapidement possible d'un niveau à l'autre en faisant des actions assez hallucinantes pour la plupart, c'est vraiment impressionnant, et les voir exploiter du mieux possible notre level design, les outils qu'on leur propose, etc., c'est une autre approche de la manière dont les gens jouent habituellement au jeu, et c'est gratifiant aussi.
Parce que moi, j'ai vu un speedrun de Dishonored 2, ça fait peur quand même. Enfin, les premières minutes où moi, je me rappelais de ma propre partie, j'ai juste l'impression que c'était pas le même jeu.
L'optimisation de déplacement, d'angle de caméra, on essaie de tout optimiser au maximum pour essayer de gratter le maximum de centimètres à traverser, ouais, c'est impressionnant.
Mais ça fait quoi en tant que level designer, justement, en tant qu'étant la personne qui a placé tel objet à tel endroit, telle fenêtre ouverte ou fermée ou tout ça, et qui va créer il doit y avoir un moment où on se dit ah non, mais j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ce qu'un joueur dans le monde que j'ai construit moi, j'ai pas pensé au fait qu'un joueur fasse ça. Ça doit être étrange.
Oui, il y a deux sensations. Enfin, moi, personnellement, il y a la première où on se dit, on trouve ça marrant, en fait. Et puis, effectivement, il y a la sensation de se dire, ah ouais, ok, il a torché mon niveau en 30 secondes, quoi. Et il a fait des trucs auxquels, effectivement, on n'y aurait jamais pensé. Et donc, il y a ce petit côté un peu frustrant de se dire, bon, voilà, j'ai bossé dessus pendant 4 ans, et en théorie, il était censé pouvoir faire le niveau de jeu en 2 heures, mais lui, il l'a fait en une minute, quoi. Donc ouais, non, il y a ce mélange d'amusement et effectivement un peu de frustration, mais on va dire bonne frustration dans le sens où on se dit ok, c'est intéressant parce que en plus ça nous permet de voir des choses qu'on n'aurait pas vues en tant que quand on avait les mains dans le cambouis, quoi. Mmh. Et on se dit même, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est pas inévitable au final d'ailleurs, parce que de toute façon, avec tous les pouvoirs qu'on donne aux joueurs, les systèmes, les chemins alternatifs, il y a trop de combinaisons de factoristes qui vont faire que au bout d'un moment, il va forcément y avoir quelqu'un qui va trouver un exploit et qui va faire sa magie, quoi. Mmh. Après, des fois, en cours de prod, on pense aussi à ces choses-là. On essaie quand même de les limiter. On va les limiter pour les joueurs, on va dire, normaux. Mais pour ces joueurs-là, au contraire, on va se dire, même des fois, pourquoi pas les laisser en fait ces exploits. Ça ressort pas non plus du bug complètement dingue, et que ça fait pas planter le jeu. Pourquoi pas les laisser même, en fait. Mais ouais, souvent on les voit pas venir. Hein. C'est
d'une certaine manière, c'est beau, quoi.
Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Il y a une certaine beauté, c'est artistique, ouais.
Quelle importance vous donnez au retour des joueurs? Est-ce que vous êtes le nez collé sur YouTube pour voir comment les gens s'approprient Deathloop? Est-ce que ça participe à construire les feedbacks du jeu et un jugement sur votre boulot? Et à quel point ce que vous avez pu voir sur les jeux précédents vous a influencé, vous a permis de dire bah non, là ça c'est clairement trop visible? Enfin, comment c'est quoi votre rapport aux joueurs?
En fait, comme tu l'as expliqué, c'est juste, effectivement, on suit énormément tout ce qui est donc les streamers, YouTube, Reddit, voir les actions donc qu'ont fait les joueurs sur le jeu, que ce soit mal ou positif, enfin positif ou négatif, dans les deux sens, pour savoir qu'est-ce que les joueurs ont aimé découvrir, quel système ils ont interagi avec, quel est le pouvoir qui leur a fait donner le plus d'envie, etc., qu'est-ce qui a moins bien marché, pour soit essayer de voir déjà si on peut l'améliorer pour nos prochaines productions, etc. Et essayer d'en tirer profit, d'en tirer des leçons en mode bah, ça a bien marché, effectivement, on est content parce qu'effectivement, on a mis en place des puzzles, des missions, etc. Les joueurs, est-ce qu'ils l'ont bien perçu ou non? Est-ce que ça a été bien compris aussi? Parce que c'est aussi le but du jeu, du level design. Mmh. Est-ce que ça a été bien exploité dans toutes les possibilités, si ce n'est plus, qu'on avait prévu? Et donc c'est quelque chose effectivement qu'on essaie de tenir attention, et c'est pour ça qu'on essaie de continuer sur cette même vibe lorsque par exemple on a fait La Mort de l'Outsider, etc., où c'était le même système de justement essayer de découvrir plusieurs approches pour essayer d'assassiner nos cibles, soit avec un système, soit avec des éléments de gameplay qui sont liés au map ou liés au game design. Bah on a gardé cette leçon pour des sloops en essayant, bah voilà, on va essayer d'offrir cette même expérience aux joueurs, pour essayer bah, de leur donner le même fun, le même nombre de possibilités de jouer, qu'elles soient aussi différentes qu'elles soient, tout au long du jeu, quoi. Et donc on prête énormément attention, que ce soit les retours positifs ou négatifs, pour essayer, bah, tout ce qui est positif, on va essayer d'y garder, évidemment, et tout ce qui est négatif, que ce soit perception, vision de jeu, gameplay, etc., bah, on va essayer de, bah, d'en tirer un maximum pour la suite, et essayer d'améliorer ça au maximum.
Dans Deathloop, vous nous donnez des pouvoirs que les joueurs connaissent déjà. Est-ce que ça vous facilite la tâche, vous, d'avoir eu les retours sur le Blink pour travailler sur la téléportation? Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez pu louper, que là vous réutilisez différemment?
Ouais, c'est vrai qu'il y a cette idée de... Il y a quelques pouvoirs qu'on retrouve, qu'on aime bien chez Arcane, donc bah, ouais, typiquement là. La téléportation, effectivement, qui est un pouvoir qui revient souvent. Et notamment parce qu'on sait que c'est un pouvoir que les joueurs ils aiment bien, en fait. Ceux qui aiment le jeu,
bien.
Qui sont bien exploités, effectivement. Ouais. Parce que ça permet, tout simplement, comme on disait, nous, on joue beaucoup sur la verticalité. Et typiquement, bah, le Blink, c'est un pouvoir qui va être génial pour ça, quoi, pour explorer ce genre de niveau. Donc, voilà. Et puis, effectivement, c'est aussi des pouvoirs qu'on maîtrise assez bien chez Arcane, parce que c'est... Voilà, on l'a déjà exploité dans Dishonored 2, dans Dishonored aussi. Après, on essaie d'y apporter toujours quelque chose d'un peu nouveau, que ce soit dans le visuel ou dans la façon de l'utiliser. Mais ça nous permet bah, effectivement d'itérer et de le rendre de toujours plus intéressant pour le joueur et plus efficace. Donc, il y a cette idée de terrain connu qu'on aime bien. Après, voilà, faut pas non plus tout le temps... rester sur ses acquis. C'est pour ça qu'on essaie aussi d'avoir à chaque fois des pouvoirs qui sont nouveaux et qui aussi correspondent au projet qu'on est en train de faire. Parce que bah là, si dans un jeu comme Deathloop, avoir le Blink, ça marche toujours, mais pour Juliana, pour tout ce qui est interaction multijoueur, il a fallu aussi qu'on trouve des nouveaux pouvoirs, comme Mascarade par exemple, qui était super intéressant, je pense, pour le gameplay de ce jeu-là. Ouais, il y a cette idée de on se renouvelle, mais aussi on réutilise des choses qu'on connaît. Et voilà, on essaie de faire un mix de tout ça pour apporter...
Est-ce que ça vous semblait important de pas offrir de cartes aux joueurs? Là, on a des cartes papier, mais elle n'est pas interactive, elle ne lui dit pas où il est. Et tout passe par la compréhension, en fait. Est-ce que ça change beaucoup l'approche d'un jeu ou,
Je pense que surtout, ça s'est fait en fait par rapport aux maps qu'on avait. Je pense que nos niveaux de jeu sont un peu moins complexes que sur un Dishonored, du fait que justement en fait les lieux se ferment ou s'ouvrent en fonction des périodes de la journée, etc. Et on laisse justement cette possibilité aux joueurs de faire sa propre découverte d'un niveau, sa propre compréhension mentale, essayer de se souvenir de tel lieu, et justement de laisser un peu ce côté surprise de « Ah, je suis venu là, ah mais ça c'était pas ouvert ce matin », ou de laisser un peu cet effet découverte, un peu bah, de récompense, de style « Ah, j'ai fait ça, du coup, ça s'est ouvert, ça s'est débloqué, etc. » Et je pense qu'on aurait perdu cet effet un peu récompense, bah, justement, avec ce côté bah, d'avoir une carte ou de tout découvrir, de lire,
etc. Ouais.
Exactement. On voulait laisser ce côté un peu immersif, où on laisse le joueur libre au niveau, il en fait sa découverte, il le découvre à sa manière, il le consomme à sa manière. Et justement, bah, après, il se récompense de lui-même en découvrant de nouvelles choses, en se débloquant des accès avec d'une loupe à l'autre, etc. Quoi.
Effectivement, il y a cette idée de, bah, là, dans Deathloop, tu revisites les niveaux sans arrêt, tu finis, même s'ils sont, voilà, comme on disait, il y a des variations qui vont avec, mais tu finis par les connaître un peu par cœur, en fait. Contrairement à un Dishonored, où ça va être une approche qui est différente, donc linéaire. Ouais. Voilà, où on a un niveau, tu le traverses, tu le finis, tu passes au suivant. je pense que l'intérêt d'avoir une map là est plus intéressant. Alors que dans des zoos, voilà, tu reviendras forcément dans un niveau que tu as déjà vu. Peut-être 2, 3 fois, 4 fois. Donc voilà, bah, briser la loupe, ça se fait pas en une fois. Donc tu finis par apprendre quasiment par cœur ces niveaux-là. Et il y a ouais, effectivement ce côté satisfaction qui est presque encore plus prononcé, je pense.
Ça fait quand même des deux côtés, c'est-à-dire que même si tu joues Colt, tu découvres de toi-même, et même en tant que Juliana, lorsque tu envahis le niveau de quelqu'un, tu arrives sur la map, tu te dis ah, « Ok, je suis sur telle map, je sais que j'aurai tel outil à côté, etc. » et tu peux faire ton petit setup pour essayer de traquer Colt plus facilement ou jouer avec ton environnement parce que justement, tu as consommé ce niveau, tu l'as appris, tu l'as appréhendé. Et justement, ce côté récompense, c'est « Ok, je sais quoi faire, je sais comment je vais essayer de piéger le Colt en face pour le tuer. » quoi.
Le savoir est une arme, même la localisation GPS. Merci beaucoup, merci énormément Guillaume et Thomas de nous avoir fait partager ça. C'est vrai que c'est un privilège de pouvoir comme ça avoir un peu une connaissance de ces rouages, de ce travail, et on l'a dit, hein, de ce travail invisible par fonction. C'est vous devez faire un travail qui n'est pas directement visible par le joueur, donc c'est d'autant plus intéressant pour nous de découvrir cette facette-là de la construction d'un jeu vidéo. Donc merci beaucoup de cette intervention, et puis bah, peut-être à une autre fois pour nous parler encore une fois de level design, pourquoi pas.
À vous, avec plaisir.
Bah, merci à vous en tout cas.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.